À suivre dans Actu et Compagnie, place au débat. Ce sera dans quelques minutes et nous reposerons la question du direct dans la couverture des attentats de Paris en janvier, direct des médias bien sûr. Le jeune homme qui était resté caché 8 heures dans l'imprimerie de Dammartin en Guelle a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais pour l'heure, il est 19h30.
Sud Radio,
19h-20h,
Actu et Compagnie,
Sophie Chollec.
6 mois après les attentats de Charlie Hebdo, de Dammartin en Guelle et de l'hypercachère de la Porte de Vincennes, le traitement des médias est à nouveau mis en question. L'homme qui était resté caché pendant plus de 8 heures sous un évier dans l'imprimerie de Dammartin a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre TF1, France 2 et RMC. Alors qu'il était caché et donc inconnu des terroristes, les médias ont révélé sa présence dans l'entreprise. Depuis les attentats, le CSA a lui mis en demeure plusieurs médias et beaucoup ont d'ailleurs reconnu que leur couverture médiatique méritait réflexion. On ouvre à nouveau le débat dans Actu et Compagnie ce soir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir François Jost. Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias, directeur de la revue Télévision. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Les nouveaux méchants, quand les séries américaines déplacent la frontière entre le bien et le mal » est paru aux éditions Bayard. Avec nous également Denis Rouget. Vous êtes président des Pieds dans le PAF, qui est une association de défense des usagers des médias. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
À tous les deux. Bienvenue à tous les deux sur l'antenne de Sud Radio. Alors François Jost, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'on peut dire qu'après cette plainte, finalement, TF1, France 2 et RMC ont fait une erreur ?
Ah, moi, j'ai écrit, je ne sais plus la date exactement, mais quelques jours après ces événements, qu'effectivement, c'était une erreur de livrer ce genre d'informations, de même que aussi représenter un policier à genoux se faisant exécuter par un des terroristes.
Ça, c'était la une du Point,
ouais. Oui, c'était la une du Point. Je pense que c'est absolument une erreur, parce que je pense qu'on ne garde pas assez en tête, peut-être dans ce genre de reportage, qu'aujourd'hui, les terroristes sont aussi sur les médias, c'est-à-dire que les médias sont partout, qui sont sur les iPhones, qui sont sur les smartphones, qui sont partout, et que donc, quand on donne des renseignements comme ça, on croit s'adresser, en fait, aux Français qui veulent des informations, mais en même temps, on s'adresse à des terroristes et on leur donne des indications, évidemment, qui peuvent être extrêmement précieuses. Il y avait aussi évidemment le cas de ceux qui avaient été enfermés dans une chambre froide de l'hypercachère, c'était un cas presque plus grave encore, parce que là on a livré une information qui pouvait être extrêmement dangereuse pour eux.
Et là aussi d'ailleurs il y a eu des plaintes de déposer, oui. Effectivement. Denis Rouget, président des Pieds dans le PAF, c'est une plainte, donc rappelons-le, pour mise en danger de la vie d'autrui, révéler effectivement qu'il y a une personne cachée en pleine prise d'otage. Est-ce que vous considérez que c'est une erreur déontologique ou une erreur morale, pourquoi pas ?
Ah bah c'est les deux, c'est-à-dire que il y a pour les journalistes et notamment le fait que ça soit en direct, c'est qu'on ne garde plus, on n'a plus aucune distance par rapport aux événements, aux conséquences. Et globalement, les médias oublient leur responsabilité sociale. Je parle jamais de morale puisque ça c'est une question propre à chacun, mais chaque diffusion d'information a des conséquences sur la société. Et là on prend des proportions qui quand même qui auraient pu être dramatiques et que pour remplir l'antenne aussi et pour être dans cette adrénaline du direct pour certains journalistes, on prend plus aucune on a plus aucune retenue.
François Jost, quand il y a une plainte comme ça qui est déposée contre des médias sur ce motif-là, mise en danger de la vie d'autrui, qu'est-ce que risquent ces chaînes et cette radio?
Bah, écoutez, pour autant que je sache, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, je ne sais pas bien ce qu'il risque. Ce qui est intéressant pour nous tous, pour savoir ce que le droit aura à dire dans tout ça, c'est qu'effectivement, on passe de la sanction simplement médiatique donnée par le CSA à une sanction judiciaire. Personnellement, je ne sais pas ce qu'est. Je pense qu'on risque que les médias immobilière risque une amende, tout au moins, et sans doute une mise en demeure.
Mmh. Ce qui est étonnant dans cette affaire, quand même, François Josse, dans celle-ci, mais après, finalement, c'est un peu la même chose pour l'hypercacheur de la Porte de Vincennes. Mais là, en l'occurrence, TF1, France 2, RMC, ce sont trois médias qui ont trois façons très différentes de traiter l'info en temps normal. Et pourtant, là, ils sont épinglés pour la même chose. Ils ont fait finalement la même chose. Ça s'est confondu.
Alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Je crois que ils ont attaqué ces médias, mais qu'ils auraient pu en attaquer d'autres aussi. Hein. J'ai l'impression que ça a été un peu arbitraire. Mais sans doute, non, c'est pas exactement la même chose, parce que BFM ou ITD sont des chaînes qui jouent du direct, qui vivent du direct, et donc elles sont constamment dans ce régime extrême. Mais cela dit, ce qu'on peut remarquer, c'est que des grandes chaînes généralistes comme France 2 ou TF1, dans des cas comme ça, elles reprennent la même philosophie, en fait, on peut dire, que les chaînes permanentes. Parce que on sait aussi que les grands événements comme ça, il faut le dire, c'est malheureux, mais les grands événements comme ça rapportent de l'audience. C'est-à-dire que ça vaut le coup de casser l'antenne pour avoir plus d'audience. Parce que on sait bien qu'aujourd'hui, où les gens regardent moins la télévision qu'avant, le direct, l'événementiel, reste un des points qui attire encore fondamentalement le public. Mmh.
Vous parlez de direct et d'événementiel, François Joste. Là, je vais me tourner vers Denis Rouget. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'infospectacle, quand même, à un moment donné ?
On est dans l'infospectacle, c'est surtout que dans ce genre d'événement, paradoxalement, je trouve qu'il se passe rien à l'antenne. C'est-à-dire que, à part que lorsqu'effectivement il y a un assaut ou des événements, les journalistes sont obligés de meubler le temps d'antenne, donc à la recherche de la moindre info qui va tenir les gens en haleine. Donc évidemment, d'avoir une information comme celle-là, on la donne, et c'est extrêmement dangereux, et je pense pas que les gens sont forcément en attente de ça. Maintenant, on est aussi dans un système où, évidemment, on a tendance à regarder, parce que, je prends toujours l'exemple, lorsqu'il y a un accident sur le bord de la route, notre éducation nous a appris qu'il ne faut pas regarder. Or, on a tous le réflexe de regarder.
Ah oui.
Et là, on est dans le même phénomène, c'est-à-dire que on capte l'attention des gens, comme en plus on consomme la télévision et les médias souvent seuls, il y a aucun contrôle à côté qui nous empêche d'avoir cette barrière d'éducation ou de ce qu'on nous a appris de façon générale, qui fait que c'est pour ça qu'il y a de l'audience sur les différentes chaînes d'information continue.
François Joste.
Juste sur un point. Il a été dit tout à l'heure que chacun avait sa morale. Oui et non, parce que il n'y a pas 36 comme système moraux, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas 36. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a quand même des devoirs, c'est ça la déontologie, il y a des devoirs à respecter, il y a des choses à ne pas faire, parce que elles ne sont pas morales. Moi, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est que ce qu'ont dit les journalistes qui ont défendu leur position en montrant en renseignant en tout cas sur ces gens qui étaient cachés, ils ont dit, on fait notre travail de journaliste, oui. C'est l'information, c'est notre obligation. Alors certes, c'est toujours le droit à l'information est un droit inaliénable, il faut absolument qu'il existe, etc. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'on doit raisonner en tant qu'être humain. Moi, c'est ça qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que on peut dire, comme journaliste, j'essaie d'informer, mais aussi, à un moment, comme être humain, est-ce que je peux accepter de dénoncer, finalement, quelqu'un qui est en train de sauver sa vie, pour simplement informer les autres. Et c'est vraiment une question de morale, et par rapport à ça, on doit avoir des règles, je veux dire, c'est pas, ça relève pas simplement du bon vouloir de chacun.
Quoi. Et c'est peut-être aussi une question de recul, François Joste. Vous restez avec nous, professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des médias. Denis Rouget, président des Pieds dans le PAF, est également notre invité. Nous parlons bien sûr du traitement médiatique des attentats comme Charlie Hebdo, Dammartin Angouël et l'hypercacheur de la Porte de Vincennes. Vont-ils trop loin ? Parfois, nous continuons d'en discuter dans quelques minutes.
Sud Radio,
Sophie Cholec,
Actu et compagnie.
Et nous parlons de la plainte qui a été déposée contre 3 médias, 2 chaînes télé et 1 radio par l'homme qui était resté caché pendant plus de 8 heures sous un évier dans l'imprimerie de Dammartin en Gouëlle. C'était lors des attentats en début d'année. Il a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. On en parle avec nos invités dans le débat d'Actu et Compagnie. Denis Rouget, président des Pieds dans le PAF, association de défense des usagers des médias. Et François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste des médias, directeur également de la revue Télévision. François Jost, je me posais une question pendant la pause. La plupart des médias, les 3 médias qui sont visés par cette plainte, ils font partie de tous ceux qui se sont fait taper sur les doigts par le CSA, qui, je le rappelle, avait relevé 36 manquements et émis 21 mises en demeure. Ça signifie quoi concrètement pour un média d'être mis en demeure, François Jost ?
C'est un système de, j'allais dire, de punition graduée. C'est-à-dire que je ne sais plus quelle est la hiérarchie exacte
des punitions. C'est un avertissement, là, en l'occurrence.
C'est un avertissement. Donc, effectivement, s'il recommence, il risque des choses plus graves jusqu'à, en théorie, la suspension de la fréquence de l'antenne. Mais bon, ça, je pense que il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose de très grave pour arriver à ça. Mais disons que c'est un système gradué.
Alors, toutes ces chaînes ont en commun, les 21 en tout cas, qui avaient été mises en demeure. Alors, c'était pour Dammartin en Gouëlle, mais pour la Porte de Vincennes, également pour Charlie Hebdo, je crois. Elles ont toutes en commun, finalement, d'avoir fait des éditions spéciales de l'info en continu. Est-ce qu'à un moment donné, François Jost, il ne faut pas justement dépassionner l'information ?
Oui, sûrement. Il faut. C'est parce que c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Denis Rouget, très souvent on informe finalement pas du tout. C'est-à-dire que on est dans un système où on décrit ce qu'on voit, on en est remis au visible et on peut pas dire grand chose de plus. D'autant plus que on l'a vu dans les événements qui se sont passés ensuite, notamment dans l'Isère. Maintenant, les journalistes vont être mis pratiquement dans des périmètres de sécurité, c'est-à-dire où ils pourront pas approcher. Et donc, les informations qui arrivent sont très très minimes et on ne peut savoir qu'après. Donc, je pense que même démonter complètement ces événements après n'est pas toujours bon. Parce que, si vous voulez, là aussi, les terroristes sont des gens qui écoutent les médias et savoir comment ça s'est passé à l'intérieur, comment on les a piégés, comment on a organisé l'attaque, etc., c'est des informations qui servent pour la fois d'après. Et donc, personnellement, je pense qu'il faudrait s'abstenir, finalement, de tout démonter, de tout dire.
Le CSA dit qu'il faut contrôler ce qui est dit à l'antenne. Il faut contrôler par les journalistes, déjà, mais aussi par les non-journalistes, c'est-à-dire les personnes qu'on interviewe. C'est justement ça qui est en cause dans la plainte de Dammartin en Gouëlle, notamment. Mais contrôler, ça veut dire prendre du recul. Et ça, est-ce que c'est compatible avec l'info en continu, François Jost ?
C'est sûrement difficile. Mais c'est pour ça que les règles sont intéressantes, parce que c'est une discussion un peu éternelle qu'on a quand on est universitaire avec des journalistes. On nous dit, mais vous, universitaires, vous êtes dans un temps très long, vous avez le temps de réfléchir, etc. Nous, on doit aller très vite. Mais si c'est tout à fait vrai, mais en même temps, si vous voulez, on peut imaginer quasiment des cas d'école. Malheureusement, les attentats, ça va se produire encore, et on peut se donner des règles a priori pour dire, voilà, ça, un coup de téléphone qui arrive d'un endroit où il y a un otage, avant de le passer, on attend, on réfléchit, on l'analyse et on voit. On peut très bien se donner des règles a priori comme ça. C'est ça la déontologie.
Ouais. En même temps, Denis Rouget, là on tape sur les doigts des médias, enfin le CSA en l'occurrence, mais finalement les réseaux sociaux, ils font pas mieux.
Ils font effectivement pas mieux, c'est plus difficilement contrôlable. Mais c'est pour ça que justement, nous, on défend, et dans une société démocratique, c'est essentiel qu'il y ait des médias qui mettent, leur rôle, c'est bien de mettre, de citer, de parler des faits, de mettre en perspective et avoir ce recul. Et donc, si on peut plus avoir confiance ni dans la façon de faire, ni dans les de ce recul peuvent avoir les médias, ils vont être effectivement dépassés par les réseaux sociaux, et c'est là que c'est dangereux. L'éducation aux médias que nous on prône, elle est aussi une éducation aux réseaux sociaux, à la fois dans ce que les gens publient, mais à la fois des informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux. On en voit plein de fausses informations qui circulent régulièrement. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important que les médias montrent effectivement et soient différents de tous ces systèmes de réaction extrêmement rapide, instinctive de beaucoup de gens.
Mmh. Oui, François, je voudrais rajouter, je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que moi je ne suis pas manichéen, si vous voulez. Oui, les médias ont fait une erreur en l'occurrence, mais il n'y a pas d'un côté le gentil public et les méchants médias. Ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, d'une certaine façon, il y a beaucoup de gens qui agissent exactement comme certains médias qui ne devraient pas le faire, c'est-à-dire qui propagent des informations à toute vitesse sans avoir regardé à deux fois, s'en tiennent simplement à ce qu'ils ont aperçu, etc. Donc c'est vrai que ça touche à chacun de nous, ce devoir par rapport à l'information. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les méchants médias, si vous voulez.
Mmh. Et qu'est-ce qui explique d'ailleurs cette frénésie de l'information ? Parce que vous disiez tout à l'heure, François Josse, oui. Finalement c'est un cas un peu nouveau, là, tout ce qui se passe. Comment ça se fait que ce n'était pas comme ça avant ? Enfin, je veux dire, bon, effectivement, il y a l'arrivée des réseaux sociaux, mais d'où sort cette frénésie ?
Vous savez, alors franchement, c'est complètement simplement humain. C'est-à-dire que au Moyen Âge, on parlait de la libido conoscendi en latin. Hein, il faut le remettre dans les écoles. c'est-à-dire le désir de connaître, la curiosité. Hein, la curiosité, c'est une des choses les plus humaines qui soient, et on a envie de savoir, on a envie de découvrir. Et il y a cette idée parfois un peu assez naïve que la vérité est quelque part qui suffit. De creuser pour la trouver, d'où souvent les théories aussi du complot, etc. C'est vraiment ce qu'il y a de plus humain, la curiosité. Donc en même temps, c'est vrai que n'importe qui, y compris un sémiologue, y compris un prof qui doit prof de la distance, etc., quand il regarde un reportage comme ça, il aimerait en savoir plus.
On est tous comme ça.
Et donc ce qu'on peut dire simplement, c'est un moment, il faut pas nous encourager à être avoir dans nos pulsions les plus lamentables, les plus négatives, vous voyez.
Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a beaucoup de réactions qui ont reconnu, après les mises en demeure du CSA, qu'il y avait une vraie réflexion à mener, justement, sur le traitement de ce genre d'événement. Est-ce que vous savez, François Josse, ou même Denis Rouget, où ils en sont, ces médias, aujourd'hui, dans leur réflexion ?
Écoutez, je ne sais pas. Enfin, je pense que ce qui est dommage dans ce genre de choses, c'est que justement, ça soit pas plus plus plurivocal, ou je sais pas comment on pourrait dire. Mais moi, j'ai eu beaucoup de discussions dans les médias justement avec des directeurs de chaînes ou des choses comme ça. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des commissions qui fassent intervenir des. Vous savez, comme le comité d'éthique. Le comité d'éthique se penche sur des choses, les avancées de la biologie. Pourquoi il n'y aurait pas vraiment un comité d'éthique qui réfléchisse globalement sur les problèmes des médias avec des partenaires très 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 différents? Ça serait bien, c'est pas vraiment le cas. Il y a des consultations, le CSA consulte parfois aussi des universitaires, mais à mon avis, il n'y a pas assez de rencontres comme ça, et je pense que malheureusement, si vous voulez, il y a l'idée quand même chez les journalistes souvent que c'est comme ça qu'il faut faire l'information et qu'on doit pas, on peut pas en discuter quand on vient de l'extérieur.
Ouais, c'est vrai, c'est pas faux.
Et puis Denis Rouget. Aussi, c'est la critique des médias, quelle qu'elle soit, c'est de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des professionnels de la profession qui peuvent critiquer, alors que c'est un vrai débat de société. Il n'y a aucune organisation, et on parle du CSA, mais il n'y a aucun représentant des usagers au CSA. Il n'y a aucune instance qui permet que l'ensemble de la société s'interroge sur le rôle des médias, leur fonctionnement actuellement, parce que c'est un précaré, et dès qu'on intervient sur ce genre de choses, on entend qu'on a des choses comme quoi on attaque la liberté d'information. Alors, nous, ce qu'on défend, c'est qu'il est essentiel, et surtout après ce qui s'est passé, c'est encore plus évident après ce qui s'est passé avec Charlie, on on a besoin de et on défend cette liberté d'expression et d'information.
C'est pas elle qui
maintenant,
en cause.
Maintenant, il faut que le débat s'ouvre et que ça soit un vrai débat de société.
Et ben voilà, l'appel est lancé. Denis Rouget, président des Pieds dans le PAF, association de défense des usagers des médias. Grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup à François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, directeur de la revue Télévision. Et votre dernier livre, Les Nouveaux Méchants, quand les séries américaines déplacent la frontière entre le bien et le mal, est paru aux éditions Bayard.
Sud Radio.
Sophie Cholec.
Actu et compagnie.
Bonsoir Jean-François Julliard.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint du Canard enchaîné, le Canard qui s'intéresse au porc, à la une de son édition de demain.
Ben oui, on a fait un petit signe à nos amis agriculteurs parce que on s'est dit qu'il serait bon qu'ils fassent une petite prière à Sainte-Thérèse de Lisieux.
Oui.
Voilà, je crois que même dans notre beau midi, on connaît cette jolie ville de Normandie.
Voilà, une petite prière à Sainte-Thérèse de Lisieux. Vous revenez également dans le Canard demain sur l'affaire des Mistral que nous devons, rappelons-le, rembourser à la Russie.
Voilà, nous avions raconté la semaine dernière que l'addition serait beaucoup plus lourde que prévu. Et un général est venu à notre secours. Il confirme tout à fait nos informations. Il les aggrave, si j'ose dire. Le général Norlin, un grand général d'aviation, qui me dit que l'addition générale finale sera probablement proche de 2,3 milliards.
Ah oui, donc c'est plutôt des mauvaises nouvelles, oui, vous nous l'annoncez. D'accord. Et parlez-moi de cet inventaire des recasés de la République.
Oui, on s'est amusé à regarder toutes les personnes qui ont servi, disons, en ce moment c'est plutôt le pouvoir PS, hein, et qui ont été récompensés. Alors c'est par exemple les anciens Chiraciens qui sont ralliés à Hollande en 2012, les gens évidemment de la promotion Voltaire de l'ENA qui ont été un peu popularisés, certains préfets qui sont recasés dans de beaux endroits, les gens des cabinets ministériels qui ne travaillent plus avec les ministres et qu'on recase aussi, ou encore les apparatchiks du PS.
Ah ben voilà, les vases communicants dans les organes du pouvoir. Cela est à retrouver donc dans les colonnes du Canard enchaîné, à paraître bien sûr demain. Merci beaucoup Jean-François Julliard. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Canard. À retrouver demain dans tous les kiosques. C'est la fin d'Actu et compagnie. Nous, on se retrouve bien sûr demain dès 19h et votre prochain rendez-vous d'info, eh bien ce sera demain dans la matinale info de Sud Radio. Sud Radio, il est 20h.